Et on commence ce journal par ce premier sujet. On comprend enfin comment, Antoine, les spermatozoïdes font pour garder leur cap.
Et on le sait grâce à une étude franco-allemande parue aujourd'hui dans la revue Science. Chacune de nos cellules est composée d'un cytosquelette composé entre autres de microtubules, c'est-à-dire des minuscules tubes constitués eux-mêmes d'une protéine appelée tubuline. Les cils et les flagelles présents à la surface de la majeure partie de nos cellules contiennent de nombreux microtubules et la queue des spermatozoïdes est un exemple de flagelle. Ce que montre l'étude menée entre autres par des équipes de l'Institut Curie, c'est qu'une modification de la tubuline appelée glycylation est essentielle à la bonne tenue de route des spermatozoïdes. En l'absence de glycylation sur la tubuline, le battement ondulatoire des flagelles des spermatozoïdes est perturbé et ces spermatozoïdes nagent en rond. Cette absence de glycylation pourrait donc être l'une des causes de sous-fertilité masculine. Au-delà de ce nouvel éclairage sur les mécanismes de l'infertilité, les chercheurs responsables de l'étude affirment que leurs travaux apportent la preuve directe que les microtubules jouent un rôle actif dans la régulation des processus biologiques fondamentaux par le biais d'un code de modification de la tubuline.
Voilà, et tout savoir sur la tubuline, comme d'habitude, avec les études appropriées, dont celle dont vient de parler Antoine, et bien c'est sur notre fil Twitter, @lamethodefc, sur le site franceculture.fr. En bref, Antoine, sauter dans un trou de ver pourrait provoquer sa contraction et sa désintégration.
Oui, les trous de ver, ce sont ces hypothétiques tunnels reliant deux trous noirs entre eux et qui connecteraient deux régions de l'espace entre elles, ou bien même, qui sait, deux univers séparés. Grâce à des simulations numériques, des chercheurs danois suggèrent que si l'on sautait dans un trou de ver, la violation de son état d'équilibre serait telle que le tunnel qui le compose s'élargirait et se raccourcirait jusqu'à ce que les deux trous noirs aux extrémités du trou de ver se rapprochent et causent la disparition du trou de ver en formant une paire de trous noirs. On rappelle que tout cela relève de l'hypothèse, aucun trou de ver n'a encore été observé.
En bref, toujours, les steppes d'Asie centrale sont menacées de désertification.
C'est ce que met en lumière une étude franco-néerlandaise parue dans la revue Science Advances. Les chercheurs ont constitué pour la première fois une chronologie des grands événements climatiques et environnementaux qu'a connu la steppe au cours des 40 derniers millions d'années. En se basant sur l'analyse des pollens découverts dans les différentes strates des sols steppiques, ils ont pu montrer à quel point la steppe est fragile et sensible aux modifications du climat. Selon cette étude, le changement climatique en cours pourrait transformer la steppe en désert hyper aride, et ce de façon irréversible, la mise en place d'un environnement désertique pouvant persister sur des millions d'années.
Des objets fabriqués en os de baleine ont été retrouvés dans les Pyrénées.
Et pas n'importe quels objets, puisque ces 54 artefacts datés d'environ 18 000 ans sont les plus anciens objets fabriqués en os de baleine connus à ce jour. Ils ont été découverts par une équipe franco-espagnole dans près de 64 sites autour du golfe de Gascogne et dans les Pyrénées. Cette étude parue dans Quaternary Science Reviews révèle une série d'adaptations littorales précoces et partagées avec des réseaux de communication réguliers et structurés à longue distance par les communautés de chasseurs-cueilleurs préhistoriques qui vivaient au bord du golfe de Gascogne à la fin de la dernière glaciation.
En résumé, cette semaine, dans le Journal des Sciences, il a été question d'une potentielle nouvelle espèce appartenant au genre Homo. Il a été question également du variant sud-africain du SARS-CoV-2, de la réplication du coronavirus post-mortem, ainsi que d'une nouvelle prouesse de CRISPR-Cas9 pour lutter contre la progéria, mais également dans l'actualité scientifique cette semaine. Antoine est en ultra bref.
Si les koalas sont une espèce menacée en certaines régions d'Australie, dans d'autres, ils sont en surpopulation et causent des dégâts sur les eucalyptus dont ils mangent les feuilles. Pour enrayer ce phénomène, les Australiens viennent de mettre en place une politique de contrôle des natalités chez ces koalas envahissants. Le cœur artificiel de l'entreprise Carmat vient d'obtenir sa certification européenne. Il pourra donc être commercialisé à partir du printemps. Cette bioprothèse pourrait permettre de sauver des vies de patients atteints de pathologies cardiaques en attente de greffons. Et enfin, des scientifiques ont découvert des ondes cérébrales à haute fréquence qui témoignent de la façon dont notre cerveau crée ses propres attentes vis-à-vis du monde qui nous entoure. Le tout à partir des expériences passées et du présent. Ces résultats sont à retrouver dans la revue Nature Communications.
On passe au deuxième sujet de ce journal des sciences de la semaine. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas que le Covid dans la vie. Il y a tout de même encore beaucoup de Covid puisque des scientifiques s'inquiètent, Antoine, des conséquences psychiatriques au long cours précisément de la maladie.
Oui, il faut être évidemment prudent avec ce genre de sujet, mais la question que posent ces chercheurs dans le Journal of Alzheimer's Association mérite d'être soulevée. Ce qui les a alertés, c'est le nombre important de personnes atteintes par la Covid-19 qui présentaient des symptômes neurologiques dont on sait qu'ils sont causés en partie par une atteinte de l'hippocampe. Même si la pandémie ne dure que depuis un an, ces chercheurs affirment qu'il est essentiel de mesurer dans les années et les décennies qui viennent les conséquences potentielles du coronavirus sur l'évolution du nombre de cas de démence parmi les personnes qui ont contracté la Covid-19. L'étude internationale de masse que viennent de lancer ces chercheurs apportera les réponses à ces questions essentiellement fondées pour l'heure sur des spéculations éclairées.
Et puis à propos toujours du coronavirus, le vaccin de BioNTech Pfizer serait efficace contre les différents variants du SARS-CoV-2, Antoine?
Oui, le laboratoire BioNTech annonce aujourd'hui dans un communiqué de presse qui n'est pas encore une étude que les anticorps des 20 personnes étudiées ayant reçu le vaccin Pfizer-BioNTech neutralisent efficacement le SARS-CoV-2 avec une mutation clé qui se trouve également dans les deux souches hautement transmissibles identifiées en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud. Il est encore trop tôt pour crier victoire. L'une des limites de cette étude succincte, soulignée dans le communiqué, est qu'elle ne porte pas sur l'ensemble des mutations présentes sur ces variants.
Le Mexique vient de faire un choix ferme pour son agriculture.
Le gouvernement mexicain s'est engagé à bannir de son sol en 3 ans le maïs génétiquement modifié ainsi que le très contesté herbicide glyphosate. Si cette décision a été applaudie par les organisations environnementales, le secteur agro-industriel, lui, a accueilli fraîchement la nouvelle.
Et pour conclure ce journal des sciences de la semaine, comme chaque semaine par notre rubrique de sciences improbables, cette semaine, eh bien, on va s'intéresser au changement de sexe d'un saurien.
Et l'histoire se déroule à l'aquarium de Melbourne. Alors que le mâle Lophosaurus boidi, c'est le nom de cette espèce de saurien, vient de mourir, les gardiens de l'aquarium constatent que l'une des femelles restantes est en train de changer de sexe pour devenir un mâle. L'observation étonnante ne s'arrête pas là. Alors que la femelle lézard avait atteint sa taille et son poids type, le passage à l'état de mâle l'a fait grossir de 60 grammes, atteignant ainsi un poids type de mâle, et sa crête s'est épaissie, autre signe distinctif des mâles. Enfin, dernière surprise, le tissu ovarien de cet individu a disparu, tandis que des testicules se sont développés. Les chercheurs pensaient avoir découvert le premier changement de sexe chez cette espèce Lophosaurus boidi. Il s'agit en réalité de la première observation d'un changement de sexe chez un reptile adulte.
Et l'histoire ne dit pas s'il s'est laissé pousser la moustache. Merci beaucoup Antoine. On retrouvera Natacha lundi sans moustache pour le prochain journal des sciences. Bonne fin de semaine.